ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Léa Batodet, que Dieu l'envoie une Refoua Shlema, qu'elle soit complètement guérie sa maladie, Bezrat Hashem, rapidement. Alors ce Shabbat, il y a deux parashiyot. Il y a Acharemot et Kedoshim. Acharemot, au début, on parle de la Avoda, du service que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour, au Temple. Vous savez qu'à Kippour, on ne peut pas se laver les mains. On se lave les mains, c'est nécessité. Et encore, on se lave les mains jusqu'à la moitié. Mais quelqu'un, maintenant, il veut se rafraîchir l'index, il ne peut pas ouvrir le robinet et mettre le doigt sous l'eau, parce que c'est interdit à Yom Kippour. Le Kohen Gadol, il devait rentrer dans le Saint des Saints. On ne veut pas rentrer comme ça. Pour rentrer dans le Saint des Saints, il devait tremper au Mikvé. Et il rentrait en fait deux fois dans le Saint des Saints, mais chaque fois il changeait d'habit. Il y a les habits du Kohen Gadol, ce sont huit habits, il y a un fil d'or dedans. Maintenant, on ne peut pas rentrer avec les habits dans lesquels il y a un fil d'or dans le Saint des Saints, parce que l'or, ça rappelle le veau d'or. Alors comment tu rentres maintenant dans le Saint des Saints pour dire pardon, être l'envoyé du peuple d'Israël pour que Dieu pardonne à Israël avec un accusateur, l'or. Donc il portait des habits tout blancs, quatre habits blancs, sans fil d'or. Chaque fois qu'il changeait d'habit, il devait se laver les mains, netilatadim total, toute la main, tremper dans le mikvé, renetilatadim, et il change d'habit. Et il rentrait deux fois dans le Saint des Saints. Donc en fait, il y avait cinq fois il trempait au mikvé. Chaque fois qu'il changeait, la première fois où il met les habits d'or, après habit blanc, deux, après habit d'or, après habit blanc, après habit d'or. Cinq fois, et netilatadim, la première fois, une fois, la dernière fois, une fois, et le reste, deux fois avant et après le mikvé. Maintenant, quand il rentrait dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il faisait? La première fois, il faisait trois opérations. Un, il amenait du ktoret. Le ktoret, c'est de l'encens. On va parler après pour quelle raison. Deux, il amenait le sang de son bœuf, il avait un bœuf à lui, sur lequel il a fait le vidouille. Il a rappelé tous ses péchés, il a fait tchouva. Il égorge le bœuf, il amène le sang et asperge le sang dans le Saint des Saints. Huit fois, une fois vers le haut comme ça, et après sept fois vers le bas. Après aussi dans le sang, il refait la même opération. Après, il amenait le bouc. Il y avait deux boucs qui se ressemblaient, du même âge, etc. Et on faisait un tirage au sort. Un était envoyé en bouc émissaire, environ 11 km dans le désert, on le jetait dans un précipice, avec tous les péchés d'Israël. Et un, il l'égorgeait, prenait son sang et l'aspergeait dans le Saint des Saints. C'est la troisième fois qu'il rentrait donc dans le Saint des Saints pour asperger le sang aussi une fois en haut et cette fois en bas, dans le Saint des Saints et dans le Saint. Tov, après, trempe au mikvé, met tes habits avec le fil d'or, faisant encore toutes sortes d'opérations hors du Saint des Saints. Et après, il rentrait encore une deuxième fois dans le Saint des Saints. Faire quoi? Faire quoi? La première fois où il est allé, il a amené l'encens. L'encens avait deux ustensiles. Un, une sorte d'assiette dans laquelle il y avait, parce que la Martha, il y avait des charbons ardents. Et une louche dans laquelle il y avait l'encens. D'ailleurs, c'était très difficile, parce qu'il devait verser l'encens sur les charbons ardents avec ses deux mains. Mais il y a une main avec laquelle il tient la louche et deux mains avec lesquelles il doit verser la louche sur les charbons ardents. Donc il faut trois mains, mais il n'a que deux mains. Comment il faisait? Alors il y a un avis qui dit qu'avec les pouces comme ça, il tenait la louche et avec les pouces comme ça, il faisait tourner la louche pour que ça tombe dans ses mains. Un autre disait avec sa bouche, comme ça, il prenait, comme ça. Donc s'il y a une goutte de l'encens qui tombe par terre, c'est tout fichu. Eh, c'est Yom Kippour, hein, ça la fout mal. Il y a tout le monde qui est dehors, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le Saint des Saints, des fois il ne sortait pas, il mourait sur place. Quand il ne méritait pas, il mourait sur place. Donc c'était un travail très très difficile. Maintenant, la première fois, il sort. Il y a un problème, il a laissé dans le Saint des Saints le plat avec le charbon ardent, et la louche. Alors il rentre une deuxième fois, ça prend du temps, parce qu'en attendant, il fait beaucoup de choses extérieures, pour reprendre cela. Regardez, on n'a pas le droit, même le petit doigt, de le tremper dans l'eau. Mais là, pour qu'il aille reprendre la louche et la marta, le plat des charbons ardents, on lui permet de tremper dans un mikvé, de faire un chadadaim total, avant et après. La question se pose, eh oh, on a Yom Kippour. Si tu avais un truc spécial à faire dans le Saint des Saints, j'entends, mais là, tu n'as rien à faire. C'est simple pour reprendre les objets que tu as laissés. Demande à un rabbin dont j'ai oublié le nom, parce que j'ai un problème de mémoire des prénoms, il pose la question. Ben ouais, ça aurait été beaucoup plus simple. Qu'il laisse ses objets dans le Saint des Saints jusqu'à l'année d'après. L'année d'après, quand il viendra, il amènera d'autres, une autre louche et un autre marta, l'encensoir, et là, il prendra ceux de l'année passée, il sort. Pourquoi faire tremper dans un mikvé le jour de Kippour pour enlever ces objets du Saint des Saints alors que ça sert à rien? Ça sert à ça. Pourquoi il fait ça? Pour ranger, quoi, que ça fasse propre. Aïe, 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 aïe. Réponse. On ne peut pas laisser dans la sainteté quelque chose qui sert à rien. Et ça nous concerne, chers amis. D'abord, ceux qui sont au ciel et Shiva. Tu es dans le Saint des Saints ici. C'est l'endroit le plus saint qu'il puisse y avoir. Il y a Karaï Mipninim. La Torah s'est marquée qu'elle est plus riche que des perles. Tu ne veux pas rester à la Yeshiva en restant normal. Je suis là, je ressors après une année de Yeshiva à peu près comme je suis rentré. Le même. En aucun cas. Ça n'existe pas. Dans la sainteté, il faut monter. On ne va pas laisser les objets comme ça, bêtement, dans le Saint des Saints. On va faire tremper le Kohen Gadol, Yom Kippour, dans le mikvé entièrement, alors qu'on ne peut pas être, même le petit doigt, on ne peut pas le mettre, uniquement pour ne pas laisser les choses gratuitement dans le Saint des Saints. Et ceux qui ne sont pas à la Yeshiva, tous les bons juifs qui nous écoutent, Bezrat Hashem, repose la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? On n'est pas venu sur Terre pour faire un bac, après travailler, amener de l'argent à la maison, les vacances, même que tu es pratiquant, tu fais Shabbat, tout ça, mais... Râlez pas crête. Entre 20 ans et 60 ans, t'es resté le même. C'est un pauvre type. La Torah ne veut pas un pauvre type. Elle permet qu'il trempe le Kohen Gadol même dans le Mikvé Yom Kippour pour ne pas laisser des objets comme ça. Pauvre type! À nous de nous renforcer dans ce sens-là, de nous prendre en main, avancer, Bezrat Hashem. Le Kohen Gadol, la première fois qu'il rentrait, il amenait de l'encens. En fait, comment ça se passe? D'abord, il va égorger son bœuf. Il prend le sang. Et il donne le sang dans un ustensile à un Kohen qui va bouger le sang pour pas que le sang coagule. Et là, il rentre dans le Saint des Saints. Il amène la Ktoret, l'encens. La question se pose, pourquoi est-ce qu'il fait cet arrêt au milieu? Fini avec le sacrifice. Du sang de ton bœuf. Et après, amène la Ktoret. Il ne peut pas amener la Ktoret avant, parce qu'une fois c'est écrit qu'une fois qu'il a égorgé le bœuf, alors il devient lumineux au point de voir la lumière du roi. Il devient super kadosh. Il va rentrer dans le Saint des Saints. Pour pouvoir voir cette lumière, il doit égorger l'animal. Et seulement après, il peut amener l'encens, pas avant. À quoi sert l'encens? L'encens, il répare le terrible péché de Lashon Hara. La Gemara a dit, le Lashon Hara que tu as fait à voix basse, va venir maintenant une chose qui a une voix basse, l'encens, ça ne fait pas de bruit. Comme ça, comme le Lashon Hara que tu as dit en chuchotant, il va réparer le Lashon Hara. Une fois que tu répares le Lashon Hara, tu peux venir après le sang, amener le sang du sacrifice, le tien, celui du peuple d'Israël, et comme ça tu fais la kapara, tu fais l'expiation des péchés de toi, de tes frères à Kohanim et de tout le peuple d'Israël. Mais il faut amener auparavant le Ktoret, l'encens, pour réparer la Shonara. Sachez qu'il est écrit que le manteau que portait le Kohen Gadol, c'est ça qui faisait la kapara, l'expiation du péché de la Shonara. Parce que au bas du manteau, il y avait des clochettes. Il y en a qui disent 72 clochettes. Et la Gemara dit, vienne une chose qui fait du bruit et va réparer une chose qui fait du bruit. Et là maintenant, on dit que c'est l'encens qui répare le Lashon Hara. Alors, mardi, il y a deux Lashon Hara. Lashon Hara que tu fais à voix haute, ça peut être à la radio, d'accord? Ça peut être dans la famille, ça peut être à table Shabbat, ça peut être... Aïe, 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 combien il faut faire attention, Shabbat, C'est le moment où on est en famille, etc. On est relax. Tac! La Shonara, Hachem Ishmor, Hachem Ishmor, c'est tellement grave. Alors il fallait les clochettes du Kohen Gadol. Mais un autre la Shonara que tu fais en chuchotant. D'accord? Ça, il faut autre chose. Il faut l'encens que lui aussi, il chuchote. Le Kohen Gadol qui allait maintenant faire l'expiation de tous les péchés du peuple d'Israël ne pouvait pas rentrer et faire expier les péchés si lui, il avait encore le péché de la Shonara et tout à Israël. Donc, il commençait à égorger l'animal, donnait le sang à un Kohen pour pas que ça coagule, amenait le Ktoret sur les charbons ardents et après seulement pouvait amener son sacrifice. Le Midrash dit que le jour de Kippour, il n'y a pas de mal. Même l'ange du mal, c'est marqué, qui venait à Yom Kippour, où il vient encore même encore aujourd'hui, qu'on n'a pas le temple, il allait vers Hachem et disait, le peuple d'Israël, extraordinaire! Ils sont tous levés à l'heure, il n'y a aucun qui est resté au lit jusqu'à 11h du matin. Yom Kippour, jusqu'au lit à 11h du matin, taré, ils jeûnent. Il ne part pas à la Shonara, il prie toute la journée. Aujourd'hui, dans beaucoup de synagogues, il y a une petite pause entre 2 et 4, 2 heures, 3 heures. C'est nouveau. C'est nouveau. Baba Salé, une fois, je ne sais plus si c'était son fils ou si c'était un frère ou un cousin qui est venu comme ça, puis au milieu de Kippour, il est rentré se reposer un peu. Sa femme, Baba Salé, dit « Quoi ? Kippour ? Tu rentres à la maison ? Tu files tout de suite de nouveau à la synagogue ?» Dans énormément de gens très religieux, ils font un non-stop, depuis le matin jusqu'au soir, non-stop. Alors l'ange du mal, lui-même, ce jour-là, il va vanter toutes les grandes qualités du peuple d'Israël. On pose la question, pourquoi ? Tais-toi ! Quelqu'un t'a demandé quelque chose ? On n'a pas besoin. Pourquoi l'ange du mal, il va maintenant vanter les qualités d'Israël ? On répond, non, c'est pas pour un but positif, pour un but négatif. Après, déjà, moi je peux dire même un jour, je vois des choses bizarres déjà, le lendemain. Le soir de Kippour déjà, quand Kippour sort, la prière de Arvit se fait en... Tu viens de faire une prière de Mincha qui a duré presque une heure, d'accord? Et là, tu fais Arvit en 4 minutes, d'accord? Bah, ils sont pressés, ils ont faim, ils veulent rentrer rapidement. Mais ça va, un minimum, tu sors de Kippour. Et le lendemain déjà, et après à Soukot, et un mois fini, après le Sera, il vient, il dit, regarde, il prie, il arrive en retard à la prière, il parle du Lashon Hara, il parle à la synagogue, etc. L'ange du bien dit, non, mais ok, ça va, c'est des êtres humains, c'est pas des anges. Quoi ? L'ange de la mort lui dit, qu'est-ce que tu racontes ? À Kippour, ils étaient tous 100%, donc ils peuvent. Et ça, chers amis, c'est une grande accusation sur nous, il faut faire attention. Il faut essayer d'être à Yom Kippour, être toute l'année comme à Yom Kippour. Be'ezrat Hashem. Il y avait un rave dont j'ai oublié le nom parce que j'ai un problème de mémoire des noms, de la génération décédée il y a quelques années. Lui, toute l'année, c'était Yom Kippour. Et en Elul, le mois de la Tchouva, c'était comme la Neila. D'accord ? Le moment le plus grand de Kippour. Voilà. Donc ça sert au moins à ça. On continue dans la deuxième paracha, celle de Kedoshim. C'est écrit « Lotignovu », « Ne volez pas ». Maintenant, pour savoir que c'est marqué une fois dans le 10 commandements, c'est marqué « Lotignov », « Tu ne voleras pas ». Et là, c'est marqué « Lotignovu » au pluriel. On parle de choses différentes. L'interdiction qu'il y a dans les 10 commandements « Lotignov », c'est pas voler quelqu'un, kidnapper. C'est pas du vol d'argent. C'est voler quelqu'un. Tu vas, tu le kidnappes. Pour une rançon, etc. Là, l'Acha qui est écrit ici dans notre paracha de Kedoshim, l'otignovo au pluriel, c'est sur l'argent. Ne volez pas. Pourquoi est-ce que pour le vol d'argent, c'est écrit au pluriel, l'otignovo, et pourquoi, quand on parle d'un vol d'une personne, c'est écrit au singulier? Beaucoup d'explications ont été données. Il y a une qui dit, tout simplement, aussi en hébreu, tu as comme en français la forme de politesse. Tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? D'accord, pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez, quelqu'un d'honorable, tu le parles au pluriel. Alors on dit quelqu'un qui va voler un kidnappeur, c'est pas quelqu'un d'honorable. C'est qui fait des kidnappings? C'est la racaille de la racaille. Alors lui, on parle au singulier. Par contre, les voleurs, tu as des gens qui sont des directeurs de banque, tu as des directeurs de bois, des gens très 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 honorables, qui sont des très grands voleurs aussi, d'accord? Il y a des fois des gens qui font attention à tout. Ils font un Shabbat extraordinaire. Ils ont des tefillines qui valent une fortune. Ils prient tout ça. Mais dès qu'il s'agit de l'argent, on oublie tout. D'accord? C'est très dur. Il faut savoir rester honnête aussi avec l'argent. Alors c'est pour ça qu'on parle au pluriel, pour dire qu'on parle des personnes honorables aussi. Autre raison, Misaté Charim dit exactement ce que je viens de dire, que beaucoup de gens font attention à beaucoup de choses. Mais quand on parle de l'argent, énormément de gens ne sont pas tout à fait propres. Je ne dis pas qu'il va venir maintenant voler de l'argent dans la poche de son prochain. Mais il y a beaucoup de cas où on n'est pas honnête au niveau de l'argent, et c'est le vol, et c'est terrible. Il faut savoir que le péché sur lequel on revient le plus en Gilgoul, c'est le vol. Il faut rendre l'argent qu'on a volé à la personne qui a été volée. Des fois aussi, la personne qui a été volée doit revenir en Gilgoul aussi pour qu'on lui rende. S'il mérite, il peut dire « Ok, tu donneras ça à ma descendance. » C'est valable aussi. Mais s'il mérite, c'est parce que lui aussi, il n'est pas moins voleur que le type qui l'a volé. Donc faire attention à cela, ça demande beaucoup d'attention. Beaucoup, beaucoup d'attention pour que notre Hachem ne pas être voleur. Le Zohar, il dit pourquoi il y a un singulier et un pluriel. Parce que quand on était au Mont Sinaï, le singulier, c'est dit dans les 10 commandements. On était au Mont Sinaï. Là-bas, c'est marqué que le peuple d'Israël était uni. « Ki shechad belev echad » comme un homme avec un seul cœur. Alors, Dieu nous dit les 10 commandements au singulier. Là, on a déjà après le veau d'or, etc. Alors, on nous parle au pluriel. Et il y a une très belle explication du Rav Ber Yosef. C'est écrit dans Bava Kama, page 27. Quelqu'un t'a volé quelque chose. Il t'a volé, je ne sais pas moi, un beau vase chinois. D'accord. Puis toi, un beau jour, tu passes dans la rue et tu vois dans le jardin, chez lui, ton vase chinois. C'est le mien. Alors, tu n'as pas le droit de rentrer comme un voleur, la nuit, en douce. Tu sautes sur le mur, tu prends, tu récupères, tu pars. Dès que c'est le tien, tu regardes et même ton encore qui est dessous. Tu sais que c'est le tien. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Les gens vont dire, regarde, c'est un voleur. J'ai vu sauter par la fenêtre, on est voleur. D'accord? Ne sois pas un voleur après le voleur. Même si maintenant tu ne vas pas voler, tu vas reprendre ce qui t'appartient. Donc au contraire, tu es en train de réparer le vol. Mais tu le fais comme un voleur. Il y a deux avis dans la Lacha, dans la Gemara. Un qui dit, tu rentres, tu lui dis, tu peux même lui casser les dents, tu lui dis, écoute, je reprends ce qui m'appartient. Ça m'appartient, je le prends. Au revoir. D'accord? Comme ça, tu n'es pas rentré comme un voleur. Tu es rentré de façon sincère, tu lui as dit. Ou bien, comme c'est à la rave, tu lui fais, tu intentes un procès chez un rave, parce que nous, on ne va pas dans les procès, dans les tribunaux laïcs, d'accord, encore moins des goïms. Tu vas, tu lui fais un din, tu l'accuses dans le cadre d'un procès avec des rabbanim qui sont des juges rabbiniques. Et eux vont juger. C'est ça qui est écrit ici, dans votre paracha, vous ne volerez pas au pluriel. Pourquoi? Un au voleur, un au volé. Que toi non plus ne sois pas le volé, ne sois pas un voleur qui rentre en douce comme un voleur aussi, on le prend pour un voleur. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit. Il faut le faire de façon très claire, ou comme premier avis tu lui dis ça sur place, ou comme tranche la lacha, tu lui fais un procès avec des rabbanim. L'Agma raconte que Rav Huna, il avait 400 tonneaux de vin et tous sont passés au vinaigre. Les gens lui ont dit il faudrait que le Rav il vérifie à quel point il est honnête au niveau du vin, peut-être qu'il y a un problème là. Elle a dit si quelqu'un sait quelque chose sur moi, qu'il me le dise. Alors on dit oui, on est au courant. Tu as un employé. À l'époque, aux employés, ils donnaient un quart ou un tiers ou la moitié de la récolte, d'accord? Parce qu'ils s'occupait du champ, de la récolte, etc. Et on sait que tu ne lui donnes pas tout ce qui lui revient, tu le voles. Quoi? C'est vrai, mais lui me vole beaucoup plus. Il me vole beaucoup plus. Alors on dit, ok, mais tu as bien appris dans la race qu'on vient de dire maintenant, tu n'as pas le droit de voler le voleur. Donc il te vole, tu n'as pas le droit de le voler. Tu le fais, tu vas le voir, tu lui fais un procès, comme il faut bien. Ça, c'est ce dont parle notre paracha. Vous ne volerez pas au pluriel. Dans les 10 commandements, on avait dit que c'était marqué au singulier. De quoi on parle? On parle du type qui a été kidnappé. Le type qui a été kidnappé, Il doit faire attention de ne pas voler son voleur. Il n'y a aucun problème, il doit s'échapper. Il n'y a pas d'histoire pareille. Donc là, c'est au singulier. Alors que dans notre parasha, on parle au pluriel parce qu'on parle du type qui a été volé, que lui n'a pas le droit d'aller voler. Et s'il va voler, il est comme un voleur. On voit que du ciel, comme la veuve Rav Huna aussi, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que tous ces 400 tonneaux de vin ont tourné au vinaigre. On va finir avec deux choses encore supplémentaires qu'il y a dans cette paracha. Voilà. Non, ce n'est pas l'un des commandements, pas voler le voleur. C'est l'Igmara. L'Igmara, Bava Kama, page 27, B.
Comment est-ce que Rav Huna, il ne connaissait pas ?
Je t'ai dit qu'au niveau du vol, c'est très délicat. Lui, c'est il me vole le type. Il me vole. Ben, moi aussi, je ne vais pas lui donner toute sa paye. Ben, c'était une erreur, effectivement. Peut-être que du ciel, ils ont fait ça pour qu'il tombe dans le panneau, comme ça, pour que nous, on nous enseigne cela avec un exemple qui nous touche. C'est écrit dans la paracha de Kedoshim, « L'otalin peulat sachir ad boker ». Tu ne feras pas la ligne reposer, on va dire, la paye que tu dois à quelqu'un jusqu'au matin. Il y a une autre halakha qui est dans Sefer de Dvarim, c'est marqué « Biyomot iten scharo ». Le même jour, tu le payeras. Faire attention, si maintenant quelqu'un t'a ouais, un babysit, t'as amené un babysitting chez toi à la maison, tu rentres le soir, t'as pas la monnaie, tu dis écoute, je vous paye demain, vous acceptez? La babysit, elle dit oui, aucun problème, vous me payez demain, c'est permis. Mais t'as raté néanmoins, donc t'as pas transgressé le lave, l'interdiction, de donner la paye le même jour, parce qu'elle a accepté que le lendemain, mais t'as raté la mitzvah assez, ça positive de. L'otaline pour la sahirat broker, tu ne feras pas reposer la paye d'un employé jusqu'au matin. Parce que là, tu fais reposer jusqu'au matin. Donc, même si la personne accepte, tu rates maintenant une loi positive. S'il n'accepte pas, alors tu fais aussi une loi négative, bien que tu comptes payer demain. D'accord? Tu l'as rien dit, tu n'as pas convenu avec la personne. Mais tu lui dis, écoutez, je n'ai pas de quoi vous payer, je payerai demain. Lui, si tu n'as pas dit oui, c'est bon. D'accord? Alors tu transfères une loi négative de la Torah. Maintenant, faire attention, il y a beaucoup de cas où les gens ne font pas attention à faire cette mitzvah comme il faut bien. Le cas le plus classique, c'est le taxi. Dans le taxi, on paye quand ? On paye à la fin du voyage. Le bus, on paye avant. Donc, on ne peut pas faire ça avec le bus, d'accord ? Avec le taxi, on paye à la fin. Des fois, tu payes au taxi avant la fin. Tu arrives déjà à 100 mètres de chez toi, alors tu dis, ok, je vous paye déjà. Non, tu rates la mitzvah. La mitzvah, c'est que le type, il a fini son travail. Quand il a fini, tu le payes, le même jour. Et là, tu fais la mitzvah, beyomot iten scharo. Et pas repousser à plus tard. Le même jour, tu payes. Mais faire attention de ne pas payer avant. Idem avec le coiffeur. Voilà, tu peux, voilà. Bon, c'est rare qu'on paye le coiffeur avant, mais des fois, voilà, je vous paye déjà maintenant. Non, tu payes à la fin, et tu penses, il y a des mitzvot, si on ne pense pas qu'on fait une mitzvah, quelqu'un met les tefilines, même s'il pense rien, il a fait la mitzvah, parce que personne ne met tefilines par inadvertance, d'accord ? Mais prendre le taxi, prendre une babysit, aller chez le coiffeur, tu ne penses pas que tu fais une mitzvah ? C'est dommage. Tu as deux mitzvot. Un, payer le même jour, ne pas payer le lendemain. Un lave et un assez. Donc pense à ces choses-là. Il y avait le hadmor de Biala, il avait un de ses chassidim qui lui coupait les cheveux. Et un jour, il dit, je veux te payer une lire. À l'époque, il n'y avait pas encore les shekels, c'était les lire. Il dit, non, mais ça va, Kodar, moi, c'est un honneur pour moi de vous couper les cheveux. Non, non, je veux te payer une lire, mais pas besoin. Parce que, écoute, je veux faire la mitzvah de Biyomot et Tensraro. Si je ne donne rien, j'ai pas de, je ne fais pas la mitzvah. Donc, accepte que je lui donne une lire et l'accepter pour faire la mitzvah. Dernière loi qu'on va étudier ici, je vais raconter une histoire qui s'est passée ici, à Jérusalem, lors de la Première Guerre mondiale. Il y avait ici, donc c'était l'Empire turc jusqu'en 1917, il y avait la guerre contre les Anglais, et ici à Jérusalem, il y avait une famine terrible. Les gens mouraient de faim. Il n'y a presque pas une nuit, on ne se levait pas le matin, il y avait des corps dans la rue de gens qui étaient morts de faim. Il y avait un type qui avait une pièce d'or, et il la mettait dans sa chambre à coucher, sur l'armoire, en haut, comme ça. Et son fils voyait que de temps en temps il montait, regardait tout ça. Un jour, le fils, un petit enfant, il a pris l'échelle, il a mis la pièce d'or. Oh, génial, je vais aller m'acheter un gâteau. Il prend la pièce d'or. Et sur le chemin pour aller à l'épicerie, il y a quelqu'un qui le voit avec une pièce d'or. Il me dit, tu fais quoi avec cette pièce d'or ? J'ai acheté un gâteau. J'ai un gâteau. Bah tiens, si déjà, donne-moi la pièce d'or, je donne une pièce. Avec ça, tu pourras acheter le même gâteau aussi. Bon, ok. Il lui donne une pièce normale. Le type, il prend la pièce d'or. L'enfant, il vient à l'épicerie, il prend le gâteau, donne la pièce normale, et c'est ce qu'il faut, rentre à la maison, etc. Quelques jours plus tard, le papa, il monte sur la moire, il n'y a pas de pièce. Il est paniqué, il commence, tac, pour finir, il fait il pose des questions très très serrées à son fils, qui avoue qu'effectivement, il a pris la pièce, mais t'as fait quoi avec? Je suis allé, j'ai acheté un gâteau. Où ça, à l'épicerie en face? Tu vas voir, l'épicerie le dit, t'es complètement fou. Mon fils t'a donné une pièce d'or pour un gâteau. Mais il ne m'a jamais de la vie. Je m'avais une pièce d'or. Il m'a donné une pièce tout à fait normale. Allez, allez, allez. J'avais caché, il a pris la pièce d'or avec ça, et tu as pris la pièce d'or, et tu ne l'as pas donné et j'aimerais que tu demandes la valeur. Mais jamais de la vie, jamais reçu une pièce d'or. Ils vont chez le rave. Il y a un jugement, et le rave dit, à l'épicier, le seul moyen que tu as de ne pas devoir payer la valeur de la pièce d'or, c'est que tu jures que tu n'as pas eu cette pièce d'or, que tu n'as jamais reçu, que tu n'as jamais vu cette pièce d'or. On a le droit de jurer, pour la vérité, mais il y a beaucoup de juifs qui prennent sur eux de jamais jurer. Pas prendre, ouais, ils ne veulent pas jurer. Ils disent, je ne veux pas jurer. Bon, c'est toujours pas, il faut que tu perds, il faut que tu payes. Bon, je suis d'accord. Le type, le pauvre, il a commencé à travailler, très très longtemps pour payer la pièce d'or. Le problème, c'est que les gens commençaient à parler. L'épicier, il est malhonnête, l'enfant lui a donné une pièce d'or, il a pris la pièce d'or pour un petit gâteau, etc., etc., etc. Et les gens n'allaient plus à son magasin, et a commencé à faire faillite, et la ville entière qui parle sur lui, terrible. Quelques années après la guerre, l'économie allait mieux, et le type qui a pris la pièce d'or s'est dit, bon, ben, je vais la rendre maintenant, pourquoi je ne suis pas un voleur? Alors il va voir le type, il dit, écoute, ton fils, un jour, je l'ai vu dans la rue avec une pièce d'or pour aller acheter un gâteau. Je vais changer contre une pièce normale. Maintenant, voilà, je sais que j'aurais pas dû faire cela, mais on crevait de faim. On crevait de faim chez nous à la maison. Vraiment, ça allait pas du tout. Donc, maintenant, je te remercie beaucoup et je te rends la pièce. La question, qu'est-ce qui se passe dans le jugement dans le ciel? L'épicier, lui, c'est le grand sadique. Il a rien fait. Le pauvre, le monde entier lui est tombé dessus. C'est certain qu'il reçoit beaucoup, beaucoup de paradis pour cela. Le père du gosse, bah lui aussi, il avait une pièce d'or. Son fils lui dit, j'ai pris la pièce donnée à l'épicier, il m'a donné un gâteau, c'est normal qu'il aille accuser l'épicier. Le voleur, bon, il a volé, mais il a rendu. Et puis en plus, à l'époque, les gens crevaient de faim. Donc c'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile. Alors, il a certainement une grande punition, mais bon, légère. Qui va payer pour toute la souffrance qu'a subi l'épicier que le monde entier a parlé sur lui? Eh bien, le monde entier, les gens qui parlent. Il y a une situation, tu peux même peut-être penser, surtout pas parler. Et même penser, il faut essayer de même pas penser, d'essayer de voir le bon côté. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois que pour finir, le type, il est venu, il a rendu. Le fait que les gens parlent entre eux, tu sais que c'est passé, l'épicier, il a fait ci, il a fait ça, il a changé pour un gâteau, tatati, tatata, ça a fait tout le mal. Combien, chers amis, il faut faire attention à nos bouches. Des fois, on croit qu'on parle, c'est permis, c'est tout à fait comme il faut. Jamais de la vie, ça fait beaucoup plus de mal que ce qu'on peut croire. Que Dieu nous aide à avoir une bouche sainte. Amen, va amen. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.